Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, mon nom est Martin Drouin, je vous amène au Québec. Vous allez entendre mon accent québécois tout au long de ma présentation. J'ai décidé de faire ma présentation autour du cas de Montréal parce que, comme on l'a vu ce matin, les questions de gestion du patrimoine tournent beaucoup autour de la gestion municipale. Donc, plutôt que de tenter de dresser un portrait à l'échelle de la province, j'ai décidé plutôt de me restreindre, entre guillemets, à la situation montréalaise. Ça m'apparaissait important puisque Montréal est la métropole économique du Québec, la plus grosse ville du Québec. Elle compte 1,7 million d'habitants. La ville, 1,9 lorsqu'on inclut l'agglomération et 4 millions d'habitants lorsqu'on parle de la communauté urbaine de Montréal. Donc, c'est à partir de ça que je vais dresser mon portrait, en espérant répondre aux questions qui m'ont été posées il y a quelque temps déjà, pour répondre à vos questions que vous posez autour du plus patrimonial. Commençons par le commencement. Le Canada est une confédération. C'est donc dire qu'elle compte 10 provinces et 3 territoires. Le Québec est l'une de ces 10 provinces. Et lors de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui s'appelle aujourd'hui la Constitution canadienne, l'article 92 de cet acte de l'Amérique du Nord britannique divise les pouvoirs entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs provinciaux. Donc, c'est donc dire qu'il y a des pouvoirs de compétence fédérale. Il y a des pouvoirs de compétences provinciales et des compétences partagées. Dans le cas qui nous occupe, parmi les pouvoirs provinciaux, qui sont entre les mains des provinces, il y a toute la question de l'occupation du territoire, la question des ressources naturelles, des institutions municipales, de la propriété et des droits civils. Donc, évidemment, vous voyez venir, lorsqu'on parle patrimoine bâti, patrimoine naturel, c'est surtout à l'intérieur des provinces que va être le dossier va être en place. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral joue un rôle assez important sur les scènes provinciales et sur la scène québécoise. Il est entre autres un très grand propriétaire foncier. Le gouvernement fédéral est le propriétaire d'édifices, dont des édifices, entre autres, des édifices patrimoniaux, dont il a la responsabilité d'entretenir par le biais du bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine. Donc, dans la ville, il joue un rôle important en ce sens, et le bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine a des architectes qui travaillent à réfléchir autour de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. Et ce corps d'architectes joue quand même un rôle important au Canada. Donc, trois exemples de bâtiments situés sur le territoire de la ville de Montréal. Trois bâtiments assez différents. Le bâtiment de l'ancien édifice de la douane, situé dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. Un bureau de poste, très simple. Bureau de poste de Notre-Dame-de-Grâce, un quartier montréalais, ou encore, évidemment, il est aussi propriétaire d'un patrimoine moderne, ici le complexe Guy Favreau, situé sur le boulevard René-Lévesque. Le gouvernement fédéral, il est aussi propriétaire de territoires dont il a la responsabilité en milieu urbain, des canaux, des gares, des ponts, des rivières, des ports, etc. C'est lié évidemment au pouvoir que le gouvernement fédéral détient. Donc, par exemple, ici à Montréal, le canal Lachine, ce canal qui permettait d'éviter les rapides de Lachine entre le Vieux-Montréal et le lac Saint-Louis, qui était abandonné en 1959 avec la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, est resté entre les mains du fédéral. Et aujourd'hui, c'est Parc Canada, donc une agence fédérale qui met en valeur le patrimoine, qui a la responsabilité de ces territoires de 14 kilomètres qui traverse la ville. Il y a aussi l'exemple du vieux port de Montréal, donc un territoire de 1 km carré situé juste en face de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. Donc, ce territoire évidemment, qui a subi les répercussions des transformations économiques de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, on s'est posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire. Pendant un moment, le gouvernement fédéral a pensé le densifier, construire des tours en hauteur sur ce territoire. Et grâce à des consultations publiques, on a arrêté le processus. Et finalement, on en a proposé pour le 350e anniversaire de la Fondation de Montréal une mise en valeur assez discrète, mais il n'en demeure pas moins que ce territoire, aujourd'hui inclus dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, est un territoire canadien. Le gouvernement fédéral, également, il est responsable d'un programme de reconnaissance symbolique, c'est-à-dire que la Commission des lieux et monuments historiques du Canada est responsable d'un programme de commémoration qui commémore des personnages importants, des lieux importants, des événements importants. Évidemment, cette reconnaissance, elle n'est que symbolique puisqu'il n'a pas de pouvoir légal pour toucher le territoire, mais il n'en demeure pas moins que ces reconnaissances symboliques peuvent servir de levier en cas de conflit urbain, par exemple. C'est pas rare que quelqu'un, une association ou des groupes de citoyens vont faire valoir une reconnaissance fédérale sur un bâtiment ou un site en disant « Hey, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce site parce qu'il est reconnu par le gouvernement du Canada, même si cette reconnaissance n'a aucune valeur légale sur celui-ci. » C'est surtout, donc, à travers dans les provinces, au Québec, qui a la responsabilité de travailler, de conserver le patrimoine. Donc, la première loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique et artistique a été adoptée en 1922. Je ne passerai pas à travers les différentes lois qui ont eu cours de 1922 jusqu'à 2012, la dernière loi, mais il est quand même important de dire que le gouvernement du Québec a légiféré pour protéger le territoire. Et évidemment, au Québec, comme ailleurs dans le monde occidental, la notion de patrimoine s'est transformée et s'est élargie au cours du 20e siècle. Et ce sont ces différentes lois qui sont le témoin de cet élargissement de la notion de patrimoine au 20e siècle. Quand même, quelques repères. 1922, donc la loi elle-même le dit, loi relative aux monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique. Donc, c'est les valeurs d'art et d'histoire qui sont prises en compte. 1952, loi relative aux monuments et sites et objets artistiques historique ou artistique. Première reconnaissance quand même du gouvernement du Québec que le bâtiment historique, lié à son intérêt historique ou esthétique, est lié à un milieu. Donc, ce n'est pas simplement le bâtiment qu'il faut conserver, mais il y a un milieu qui est important pour ce bâtiment. Ce qui est plus important pour nous en termes de gestion du patrimoine, c'est la loi des monuments historiques de 1963. On a parlé tout à l'heure de la loi Malraux de 1962. La loi de 1963 au gouvernement du Québec permet la création, ce que nous on appelle les arrondissements historiques. Donc, on considère dans ce contexte-là les milieux anciens comme une concentration de monuments historiques, donc les arrondissements historiques. Donc, entre 1963 et 1975, 9 des 10 arrondissements historiques qui ont été créés au Québec ont été créés pendant cette période. Donc, l'arrondissement historique de Québec en 1963, le premier arrondissement, suivi l'arrondissement historique de Montréal en 1964 et plusieurs autres arrondissements, dont l'arrondissement historique de Sillery. 1972, loi sur les biens culturels. On le voit déjà dans l'utilisation du vocable. On passe de monument historique à bien culturel. Donc, on veut englober un nombre plus important de biens à protéger sous ce vocable. Ce qui est important aussi dans cette loi, c'est l'intégration encore plus grande des questions d'aménagement dans la protection du territoire. On prend de plus en plus compte que le classement d'un bâtiment, d'un monument historique ou d'un bien culturel n'est pas une fin en soi, mais est un début d'une autre étape. C'est à ce moment-là que sont créées pour la première fois les aires de protection associées à des bâtiments classés. Donc, les aires de protection sont associées ou non, ça dépend du décret ministériel, mais c'est à l'époque un rayon de 500 pieds autour du bâtiment classé. Aujourd'hui, on module, bien sûr, les aires de protection, mais à l'époque, c'était un rayon. Et à partir de ce moment-là, on est capable de gérer, toucher à ce qui touche autour du bâtiment classé. Étape importante au Québec, amendement à la loi sur les biens culturels. Et à partir de ce moment, le gouvernement du Québec, donc le ministère des Affaires culturelles, va dédier un certain nombre de pouvoirs aux municipalités pour qu'elles puissent elles-mêmes protéger des bâtiments historiques. Elle va pouvoir citer des monuments sur son territoire. L'idée derrière ça, c'est de donner plus de place aux municipalités qui veulent, elles aussi, participer au plan de protection du patrimoine sur le territoire québécois. Mais aussi, c'est dans une dynamique où le gouvernement du Québec veut quand même réduire son action sur le territoire avec les processus de classement et de reconnaissance en disant aux municipalités, si vous voulez que l'on classe des bâtiments, il faudra dans un premier temps que vous citiez vous-même ces mêmes bâtiments dans un processus pyramidal en disant, si c'est important pour le Québec, ça devrait normalement être important pour la municipalité qui est sur le territoire. Évidemment, dans les faits, ce qui va arriver, c'est que plusieurs municipalités ne voudront pas s'occuper de protection du patrimoine et le gouvernement du Québec devra intervenir pour sauvegarder tel ou tel bien dans des processus où la municipalité n'est pas très avide de protéger tel ou tel bien. Mais il n'y en a pas moins que beaucoup de municipalités vont utiliser ces pouvoirs pour, elles aussi, créer du patrimoine sur leur territoire. La Ville de Montréal, par exemple, dès 1985, moins d'un an après l'amendement de la loi sur les biens culturels, va créer son premier site du patrimoine sur le territoire, le Mont-Royal, dont on reconnaît la puissance symbolique et la valeur patrimoniale. Finalement, 2012, donc cette loi sur le patrimoine culturel, donc on suit la tendance mondiale aussi au Québec, donc on va évacuer le vocable de bien culturel pour utiliser le vocable de patrimoine culturel, même si dans les faits on parlait de patrimoine bien avant 2012, vous pouvez vous en douter. On parlait tout à l'heure de l'influence internationale sur la réglementation locale. On le voit aussi ici, lorsque le gouvernement du Québec, en 2012, inclut la notion de patrimoine immatériel et inclut la notion de paysage culturel patrimonial, dont des notions qui sont beaucoup discutées à l'international, et va vouloir faire sienne ces deux notions importantes et les intégrer dans la loi sur le patrimoine culturel. Il va aussi, autre geste important, obliger désormais à produire des plans de gestion et de mise en valeur à partir du moment où on protège tel ou tel bâtiment. Ces plans de gestion, c'est l'idée de dire, on protège, mais qu'est-ce qu'on peut faire désormais avec ce bien classé, ce bien protégé? Comment doit-on se projeter dans l'avenir? Et petit à petit, on est en train de passer. Évidemment, on n'adoptera pas des plans de gestion pour tous les biens classés jusqu'à maintenant en vertu de la loi sur le patrimoine culturel depuis 1922, mais pour les biens les plus importants, les arrondissements historiques, par exemple, on est en train, petit à petit, d'adopter des plans de gestion et de mise en valeur de ces ensembles-là. En parallèle de cette loi plus de type patrimonial, il y a un certain nombre d'autres lois qui ont été adoptées au Québec. Je ne passerai pas toutes les lois, bien évidemment, n'ayez crainte. Mais c'est dire, par contre, qu'il y a d'autres façons d'intervenir sur le territoire pour le mettre en valeur. La loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur les parcs, la loi sur la protection des terres agricoles et 1979, celle dont on va parler un peu plus, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU. Je vais faire comme vous, les Français, je vais utiliser un acronyme. Donc, la LAU 79 a joué un rôle fondamental dans la protection du patrimoine, donc patrimoine culturel, développement durable, etc., etc. Mais avant de parler de la LAU, parler des municipalités et de la question de la gestion du patrimoine, elle débute dans certains cas bien avant 1963, avec le désir de protection de certains biens par l'achat de biens par une municipalité pour le protéger, mais il n'y a pas vraiment de mesure légale de protection, sauf de devenir propriétaire et d'être un propriétaire exemplaire. Mais cette question de gestion du patrimoine à l'échelle urbaine va être de plus en plus une question dont on parle à partir de la loi de 1963, vous vous rappelez, qui crée les arrondissements historiques. Et à partir de ce moment-là, des parties de territoire, donc le gouvernement à Québec, a un droit de regard sur la gestion des territoires dans les municipalités. Si pendant un certain temps, cette question de droit de regard ne porte pas vraiment à discussion, assez rapidement, et surtout à Montréal, toute la question de la gestion de l'arrondissement historique, le Vieux Montréal, comme on l'appelle, va être un objet de tension entre les pouvoirs municipaux et le gouvernement qui est à Québec, en disant qui a préséance sur celui-ci. Évidemment, en vertu de la loi sur les monuments historiques, c'est le ministère à Québec qui a préséance sur la gestion, mais dans les faits, la municipalité n'est pas très ouverte à laisser une partie de ses pouvoirs entre les mains d'un gouvernement situé à Québec. C'est donc dans ce contexte-là que, par exemple, en 1975, le gouvernement à Québec procède à une décentralisation de ses bureaux du ministère des Affaires culturelles, à Montréal, bien sûr, mais dans les autres régions administratives du Québec, en disant « oui, on est à Québec, mais on n'est pas que des gens de Québec, on est aussi dans les régions, on est capable de comprendre les processus ». Mais c'est finalement en 1979, avec la création d'un bureau de gestion bipartie entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires culturelles et la création de ce qu'on appelle au Québec l'entente MacVille, où les deux parties, le ministère des Affaires culturelles et la Ville de Montréal, mettent des sous dans une enveloppe commune et délèguent des fonctionnaires autour d'un bureau de gestion que l'on va enfin pouvoir conjointement mettre en place un processus de gestion et une mise en valeur de ce territoire du Vieux-Montréal. Ici, vous avez la célébration des 25 ans de l'entente sur le développement culturel, l'entente MacVille, qui est encore aujourd'hui renouvelée. C'est des opérations triennales qu'on renouvelle parce que ça fonctionne très bien en termes de gestion, justement, du territoire et du patrimoine. Les années 70, à Montréal, mais ailleurs au Québec, sont également marquées par des protestations citoyennes face aux nombreuses démolitions du patrimoine. C'est le combat du patrimoine qui s'engage dans la ville. Ce qui est important pour la gestion du patrimoine de plus en plus, en faire un sujet de discussion dans les médias, mais aussi sur la place publique à travers des manifestations de toutes sortes. On va, à travers cette réflexion, cette manifestation citoyenne autour de la protection du patrimoine, favoriser l'élargissement de la notion de patrimoine, qui était juste là, assez réduite à l'idée d'un patrimoine essentiellement français, issu de la Nouvelle-France, jusqu'à la conquête britannique de 1760. À partir de l'implication citoyenne, on fait éclater cette notion de patrimoine et on inclut un certain nombre de biens. On va aussi manifester pour que le gouvernement à Québec puisse déléguer des pouvoirs. Donc, en 1974, un timide amendement est apporté à la loi des cités et villes du Québec et au Code municipal qui autorise une municipalité à suspendre un permis de démolition en attendant une étude du ministère des Affaires culturelles. Donc, on avance tranquillement là, autour de cette volonté que des municipalités interviennent dans la gestion du patrimoine au quotidien. Et dans cette cette implication citoyenne dans la sauvegarde du patrimoine, une question est soulevée. Est-ce qu'on sauvegarde du patrimoine ou on est en train d'influencer l'aménagement des villes? Le cas de la campagne de sauvegarde de la rue Saint-Norbert est assez éloquente à ce propos. En 1975, la ville de Montréal veut détruire une rue, les bâtiments qui sont situés sur une rue, la rue Saint-Norbert, des bâtiments assez typiques de Montréal, des bâtiments en pierre grise de la fin du 19e siècle. Les citoyens protestent en disant « c'est un milieu de vie à conserver, c'est important pour le patrimoine », voyant que la municipalité ne recule pas devant cette idée de démolir cet ensemble de maisons, se tourne vers le gouvernement du Québec et tente de faire classer le monastère du Bon Pasteur, situé à deux pas de la rue Saint-Norbert, en disant « si on réussit à classer le monastère du Bon Pasteur, l'aire de protection va nous permettre de protéger cette petite rue Saint-Norbert qui, au nom du patrimoine, n'a peut-être pas une valeur importante, mais pour les citoyens montréalais, on pense qu'à travers ce geste-là, on va réussir à protéger le patrimoine. » Donc, l'exemple du monastère du Bon Pasteur est un exemple parmi tant d'autres de stratégies mises en place par les groupes de citoyens pour tenter d'influencer l'aménagement urbain au nom du patrimoine, au nom de la valorisation d'un cadre de vie que l'on trouve important à sauvegarder. En 1979, loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU, est adoptée et elle va évidemment changer la donne en termes de gestion du territoire et gestion du patrimoine à l'échelle du Québec. D'une part, elle va obliger toutes les municipalités locales à se réunir en municipalités régionales, qu'on appelle les municipalités régionales de comté. On va dire, vous pouvez choisir avec qui vous vous associez, vos voisins, bien évidemment, pour créer ces MRC. Et on va obliger ces MRC-là, dans un espace de 5 ans, à produire un schéma d'aménagement. On va obliger aussi, à un niveau supralocal, les communautés métropolitaines à Montréal, communautés métropolitaines à Québec, à produire ce qu'on appelle les plans métropolitains d'aménagement et de développement, des PEMAD. Donc, on oblige ces gens-là à produire un PEMAD. À l'intérieur, donc, vous avez ici la carte de la communauté urbaine de Montréal. Donc, Montréal, c'est l'agglomération de Montréal. Donc, à l'intérieur de cette communauté métropolitaine se trouvent des municipalités régionales de comté, parce que les réalités de la couronne sud et les réalités de la couronne nord, certes, il y a des réalités métropolitaines à prendre en compte, mais il y a aussi des réalités locales sur lesquelles il faut réfléchir. Donc, il y a des MRC là. Et la ville de Montréal et la ville de Laval vont être réunies en agglomération parce que sur l'île de Montréal, évidemment, il y a plusieurs villes, il n'y a pas seulement la ville de Montréal. Donc, elle oblige la ville de Montréal à s'associer avec les autres villes de l'île et à produire un schéma d'aménagement. Donc, on parle d'une communauté d'agglomération et non pas d'une municipalité régionale de comté dans le cas de Montréal et dans le cas de Laval. Donc, responsabilité des municipalités locales de se doter plans métropolitains, des schémas d'aménagement et d'urbanisme et aussi de se doter d'un plan et d'un règlement d'urbanisme. Ce qui est important dans le processus de l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est qu'on va obliger, dans la production de ces documents, le PEMAD et le schéma d'aménagement, on va être obligé d'inclure 8 grands points à traiter à l'intérieur de ces schémas d'aménagement et ces documents d'urbanisme. Et un de ces 8 grands points, c'est l'idée de réfléchir à des mesures visant à protéger, à mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel, ainsi que des territoires d'intérêt sur le territoire de la communauté métropolitaine ou sur le territoire de la MRC. Donc, les municipalités, donc les MRC ou les communautés métropolitaines, ne peuvent pas dire « Ah, nous, on n'a pas de patrimoine, donc on n'en parle pas dans notre PMAD ou dans notre schéma d'aménagement. » Puisque l'État oblige à inclure cette notion-là, ils sont obligés d'identifier un patrimoine qui peut être classé par le gouvernement à Québec, mais aussi un patrimoine local, des territoires d'intérêt que l'on doit identifier. Et ces territoires d'intérêt, ils peuvent être d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique. Ici, on a à l'écran le concept de la trame verte et bleue du Grand Montréal, tiré du PMAD adopté par la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, une des trois grandes orientations dans le PMAD adopté en 2015 par la communauté métropolitaine de Montréal, c'est l'idée de créer un environnement protégé et mis en valeur. Et parmi ces objectifs-là, c'est de créer la trame verte et bleue du Grand Montréal. Donc, l'idée de dire Montréal est une ville, la grande région métropolitaine est marquée par la présence de l'eau, le fleuve Saint-Laurent, bien sûr, mais aussi la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, etc. Et ces cours d'eau ont marqué l'histoire et marquent encore ce territoire montréalais, métropolitain. Comme je disais, donc le PMAD de la communauté métropolitaine a trois grandes orientations et une des trois grandes orientations est liée à la question de la protection et la mise en valeur d'un environnement, un Grand Montréal avec un environnement protégé mis en valeur. Et dans cette grande orientation, il y a toute la question du patrimoine naturel, bien sûr, mais aussi des paysages d'intérêt métropolitain et d'un patrimoine bâti d'intérêt métropolitain. Donc, le PMAD à l'échelle métropolitaine, à l'échelle de l'agglomération montréalaise, Montréal, l'agglomération va également adopter un schéma d'aménagement et d'urbanisme, dans lequel les grandes orientations du PMAD doivent évidemment percoler, mais aussi en identifiant une réalité patrimoniale liée à l'agglomération. Donc, le schéma va proposer notamment de bonifier les mesures réglementaires pour protéger les éléments patrimoniaux et encadrer les nouvelles insertions, tenter d'accroître les aires protégées de 5,8 à 10 % du territoire, élaborer des plans de conservation, etc., protéger les vues d'intérêt ainsi que les différentes composantes du parcours riverain, puis intégrer la trame verte et bleue, dans la trame verte et bleue, les principales composantes d'intérêt patrimonial, écologique et paysager. Donc, on voit déjà percoler ces idées-là. Et enfin, le cône rétrécit, puis on arrive à la ville de Montréal avec l'adoption du plan d'urbanisme de ville de Montréal. Donc, dans lequel, évidemment, les objectifs du plan métropolitain, les objectifs du schéma d'aménagement doivent percoler, mais aussi identifier à l'échelle plus locale des territoires d'intérêt et du patrimoine, que ce soit du patrimoine naturel, bâti et archéologique à mettre en valeur dans ce plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme a des documents pan-montréalais, donc qui vont toucher l'ensemble du territoire montréalais, et des documents liés aux arrondissements, parce que la ville de Montréal, il y a 19 arrondissements dans la ville de Montréal et chacun des 19 arrondissements va adopter, va régler son plan d'urbanisme et ce règlement d'urbanisme, il va être élaboré à l'échelle des arrondissements. On est toujours dans le cône qui rétrécit. Donc, dans les éléments pan-métropolitains, assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti archéologique, préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et toute une série de moyens de mise en œuvre de ces patrimoines bâtis archéologiques et naturels qui sont listés, qui sont établis en tant qu'objectifs à atteindre pour normalement un schéma d'aménagement, un plan d'urbanisme. On dit qu'il doit être en place pour au moins 5 ans. même si on peut le changer à tout moment, mais il doit au moins être en place pour 5 ans. Mais la plupart du temps, ces plans d'urbanisme, ces schémas d'aménagement sont en place pour beaucoup plus longtemps parce qu'au bout de 5 ans, on n'a pas réussi à écluser toute la liste des objectifs qu'on a mis en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt reviser le plan d'urbanisme ou le schéma d'aménagement afin de se projeter encore plus dans le futur et d'essayer de jouer avec tout ça. Donc, à l'échelle des arrondissements, les arrondissements ont des cahiers d'évaluation du patrimoine urbain. Donc, chaque arrondissement a ses cahiers où on a identifié le patrimoine classé, mais pas seulement classé, hein, on va identifier des ensembles urbains d'intérêt, des immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle, des immeubles de valeur patrimoniale intéressante. En les identifiant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont associés à une mesure de protection légale. On dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant qui est là, il faut, à partir du moment où on agit sur ce territoire, bien, il y a une mesure de contrôle qui est plus importante qui doit être faite par rapport à ce territoire. Et évidemment, on identifie le patrimoine archéologique qu'on veut tenter de protéger. Ce qui est important aussi dans cette question de patrimoine archéologique, c'est que, oui, il y a un patrimoine archéologique urbain important qui date de l'occupation des Européens à Montréal, mais aussi toute la question du patrimoine archéologique des Premières Nations, des civilisations précolombiennes, hein, dont il reste peu de traces sur le territoire montréalais. Et l'idée est de dire, bien, ces traces sont essentiellement archéologiques, donc il faut faire attention lorsqu'on trouve des vestiges archéologiques des Premières Nations, bien, il faut agir en conséquence puisque ces traces sont quand même assez exceptionnelles et malheureusement assez rares. On arrive finalement à un document de contrôle qu'on appelle le règlement d'urbanisme qui fixe les règles, les normes, les critères d'évaluation et qui encadre les terrains, les constructions et même que leur apparition et leur apparence. Ce règlement d'urbanisme doit être, bien sûr, conforme à la loi sur les cités et villes, à la charte de la Ville de Montréal, à la loi sur le bâtiment, au code de construction, etc., etc. Donc, hein, on tente d'arrimer tous ces différents mécanismes pour que ça fonctionne sur le terrain. Et donc, au final, c'est le professionnel de l'arrondissement qui est responsable d'évaluer les permis et les demandes d'autorisation qui sont faites au bureau lorsque un citoyen ou un promoteur arrive et demande un projet entre les mains et dit « moi, je veux faire telle ou telle chose ». C'est le professionnel dans l'arrondissement qui, à travers les différentes cartes que je vous ai prêtées, à travers les différents objectifs, qui doit prendre une décision pour valider ou non l'obtention de ce dit permis. Évidemment, il n'est pas le seul à intervenir. À côté de ce professionnel, il y a ce qu'on appelle le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, donc qui est un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, mais il n'en demeure pas moins qu'il joue de plus en plus un rôle important, ce CCU. Et donc, même si ces décisions n'ont qu'un caractère consultatif, elles sont de plus en plus prises en compte par les arrondissements. Ce qu'il faut dire, c'est que ces CCU doivent explorer toutes les demandes de dérogations mineures, les plans d'aménagement d'ensemble, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les demandes d'autorisation d'usage conditionnel, etc., etc. Donc, tout ce qui change les mécanismes de règlement doit être vu par le CCU. Un CCU est composé d'un élu municipal et il est accompagné de citoyens qui habitent le territoire de la municipalité. Donc, comme ici, on voit un appel de candidature pour participer au comité consultatif en urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie, donc qui est l'arrondissement centre à Montréal. Et on va évidemment demander aux citoyens de s'impliquer. Ce qu'on s'aperçoit, par contre, c'est un citoyen qui a le goût, hein, qui a déjà une certaine formation et qui a le goût de s'impliquer dans les choses municipales qu'on va retrouver au sein des CCU. C'est un monsieur tout le monde qu'on va chercher avant la réunion pour participer à la réunion, mais il y a tout un processus quand même autour de ça. Les CCU, ils sont aussi épaulés par le Conseil du patrimoine de Montréal. Le Conseil du patrimoine de Montréal est également un organisme consultatif et non décisionnel. Il formule des avis et émet des commentaires et des recommandations sur certains projets qui ont une composante patrimoniale. C'est un comité d'experts cette fois-là, ce n'est pas simplement des citoyens, ce sont des experts qui sont choisis et nommés pour une période de 3 ans. Donc ces experts-là, ils sont choisis pour représenter une diversité de points de vue et de disciplines. Évidemment, il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des architectes du paysage, mais aussi des géographes, des historiens, etc., etc. Donc, qui se réunissent aux 2 semaines et qui étudient un certain nombre de projets et qui vont recommander, vont faire des avis ou des recommandations au conseil municipal quant à la possibilité de réaliser ou non tel ou tel projet. Au Québec, au début des années 2000, a émergé une tendance, une volonté à adopter des politiques du patrimoine. Donc, la première a été adoptée par la ville de Rivière-du-Loup en 2002. Et il y a eu comme une fièvre, toutes les villes ou presque voulaient adopter sa loi, sa politique du patrimoine. Donc, Montréal a adopté la sienne dans la mouvance en 2005. Ces politiques du patrimoine sont intéressantes parce qu'elles ont permis de réfléchir. La politique du patrimoine a été adoptée en 2005, mais à la suite d'une longue consultation publique et d'experts autour de la gestion du patrimoine. Donc, elle a permis, d'une part, de définir la notion de patrimoine. Et Montréal a adopté une définition excessivement large de la notion de patrimoine en disant « Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu'une collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique, en faisant ressortir la nécessité de le protéger, de le conserver, de se l'approprier, de le mettre en valeur et de le transmettre. » À côté de ça, on a aussi identifié des valeurs patrimoniales et théoriquement, cette politique du patrimoine adoptée en 2005, donc on est en train de réviser cette politique du patrimoine, donc c'est toujours la même, mais 17 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il faut quand même actualiser cette politique, avait 2 grands objectifs. Peuvent paraître assez simples. D'une part, mettre en place un système d'organisation de l'action en patrimoine, parce qu'on s'est aperçu à travers l'usage que l'action en patrimoine se faisait trop souvent en silo. Donc, l'idée était de faire des ponts entre, bien sûr, les différents secteurs de la culture, de l'aménagement du territoire, mais également les promoteurs, les groupes de citoyens, etc., qui veulent intervenir sur le patrimoine. Et aussi, la ville s'est dit, il faut que je devienne un propriétaire exemplaire dans la protection et la mise en valeur des biens que j'ai sous ma possession. Je vous ai parlé de le conseil du patrimoine, la politique du patrimoine qui était adopté à la suite d'une grande consultation publique. Il existe à Montréal une démarche de consultation publique qui est excessivement forte, qui découle de l'implication citoyenne des années 70. Donc, depuis 2002, depuis le Grand Sommet de Montréal, qui est une grande consultation publique où on a créé le Conseil du patrimoine, mais aussi l'Office de consultation publique de Montréal, on a donné entre les mains d'un organisme tiers, neutre, les moyens d'évaluer un certain nombre de projets qui ont une résonance pan-montréalaise. Donc, il y a évidemment différents dossiers qui sont évalués par l'OCPM, mais évidemment, il y a des dossiers patrimoniaux qui sont entre les mains ou d'aménagement urbain qui sont entre les mains de cet organisme-là. Donc, l'idée est, à travers des audiences publiques ouvertes et accessibles, donc c'est une démarche qui est très forte au sein de l'OCPM, on diffuse sur Internet les différentes consultations publiques, on fait des sondages publics, on tente à ce que la population participe à ces consultations publiques. Sur le site web de l'OCPM, on met tous les documents disponibles pour permettre une meilleure appropriation des enjeux qui sont présentés. Et au suite de ces audiences publiques, l'OCPM, donc le président de cette consultation publique, va publier un rapport qui doit normalement être suivi par les promoteurs du projet. À côté de ces grandes audiences publiques tenues à l'échelle de la municipalité, il y a aussi des audiences publiques qui sont tenues à l'échelle de l'arrondissement. Et évidemment, elles n'ont pas la même ampleur que celles tenues par l'OCPM. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ce sont des assemblées publiques de consultation. Donc, on présente un projet qui est presque déjà finalisé. Et donc, dans ce contexte-là, le citoyen a plus de difficultés à intervenir, à avoir un impact sur les transformations du projet. Donc, on comprend, dans ce contexte-là, la municipalité peut choisir qu'un projet plus litigieux soit d'impact plus local et donc dirige la consultation publique entre les mains de l'arrondissement plutôt que de l'OCPM, parce qu'à travers l'OCPM, évidemment, les recommandations vont être plus fortes. En parallèle de ça, il y a aussi tout un processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu mis entre les mains, qui a déjà été réalisé dans le contexte là, des cahiers d'évaluation réalisés dans le cadre de l'adoption du plan d'urbanisme. L'idée, à travers ces évaluations de l'intérêt patrimonial d'un lieu, c'est de contribuer à une prise de décision éclairée. Cette réflexion autour de l'intérêt patrimonial du lieu est beaucoup liée à toute la réflexion autour de la charte de Bura et la gestion par valeur mise en place par le Getty Institute. Donc, on est entraîné dans cette logique de gestion du patrimoine à travers l'idée d'identifier des valeurs patrimoniales, mais aussi des intérêts composantes caractéristiques de ces valeurs-là pour tenter de mettre en valeur la signification culturelle. Parce que l'idée derrière ça est de travailler à la gestion du changement. On ne veut pas figer les bâtiments au nom du patrimoine, mais tenter de préserver la valeur historique ou la valeur patrimoniale de ces biens-là en les adaptant, en les faisant évoluer pour qu'ils conservent leur signification patrimoniale. Et enfin, je terminerai avec cet instrument qui est énormément lié à la gestion du patrimoine à l'échelle des arrondissements. Ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA. Donc, les PIIA ont été adoptés en 1989. C'est un amendement à la loi d'aménagement et l'urbanisme. L'idée derrière ça, c'est de donner aux municipalités un instrument de réglementation qui leur permette d'avoir une approche qui est davantage qualitative que normative. Donc, le PIIA est assez large. Il faut vraiment faire un PIA au cas par cas pour être capable de bien cerner la volonté de mettre en valeur le territoire protégé. L'idée derrière ça, c'est de ne pas classer le patrimoine, mais de suivre la transformation du paysage en permettant des insertions, des nouvelles constructions ou d'aménagements de manière à ne pas altérer le caractère ou de rompre l'équilibre des lieux. Donc, c'est une procédure qui est complémentaire au règlement d'urbanisme. Elle doit respecter toutes les règles qui sont déjà en vigueur et qui sont déjà proposées dans le plan d'urbanisme, mais c'est une mesure de contrôle qui permet d'avoir une approche plus souple quant à la transformation du paysage. Et c'est l'arrondissement du plateau Mont-Royal, donc un des 19 arrondissements de Montréal, qui a un territoire relativement homogène, un territoire urbanisé à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est un paysage assez caractéristique de ce Montréal que l'on veut protéger, avec une série de duplex, avec les fameux escaliers en fer forgé, avec la pierre grise, avec la brique, etc., etc. Hein? Et l'idée derrière ça, l'arrondissement, voyant que c'était de plus en plus difficile et de plus en plus long d'étudier tous les demandes de permis de transformation du paysage, a adopté ce PIA. Tout d'abord, il a fait une grande consultation de ce processus réglementaire auprès de la population en disant voici ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la gestion du paysage. Donc, dans un premier temps, consultation publique, on s'est aperçu de la disparité des traitements, on se désolait aussi de la disparition des composantes d'origine parce que c'est trop cher à entretenir, etc., etc. Et aussi, on se plaignait de la mauvaise intégration de certains bâtiments en milieu urbain. Ce qu'on a fait, on a fait une étude typomorphologique en essayant de comprendre les différentes périodes de développement. On a fait des caractéristiques paysagères, des typologies architecturales dominantes pour identifier des aires, des unités et des secteurs pour permettre une meilleure gestion par la suite des demandes de permis qui sont faites à l'arrondissement du plateau Mont-Royal. On a aussi, dans une démarche de démystifier cette démarche-là, produit et mis en accès libre sur le web 75 fiches descriptives et réglementaires pour voir c'est quoi ce paysage que l'on veut protéger, comment on doit le faire pour protéger ce paysage, et qu'est-ce que doit faire le citoyen qui fait une demande de permis et à quoi doit-il s'attendre pour le faire. Et depuis 2003, l'arrondissement, à chaque 2 ans, refait un immense campagne photographique, une banque de photos de toutes les façades, des 15 000 façades de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, pour rapidement, lorsque le citoyen vient faire une demande de permis dans l'arrondissement, puisse interagir rapidement avec celui-ci pour, puisqu'on est dans une approche plus qualitative des demandes de transformation, pour être en mesure de assez rapidement l'éclairer et de l'aider à choisir les pistes de solutions sur la protection du patrimoine. Montréal dans l'écosystème patrimonial québécois, c'est complexe, bien évidemment, mais la complexité, vous la connaissez. mais j'espère avoir pu mettre quelques balises sur cette compréhension de la gestion du patrimoine à Montréal. Merci.
Merci. Merci. Donc, pour organiser le débat, on a demandé à un discutant de bien vouloir préparer et lancer le questionnement. Donc, Pascal Planchet a bien voulu commencer.
Je dois quand même préciser que, contrairement à mes deux doctes collègues de ce matin, je ne suis pas docteur en droit. Donc, vous excuserez mes imprécisions, chers amis juristes.
Oui, je vais. Merci, Patrice. Merci, Monsieur Drouin, pour cet exposé brillant, extrêmement riche, intéressant et surtout d'une très, très grande clarté. Alors, j'allais dire, heureusement que vous étiez aussi clair, parce que, à vrai dire, je vais faire cette animation sans filet, je n'ai pas peut-être trop anticipé. Cette discussion, mais en tout cas j'ai été très intéressé, notamment enfin en vous écoutant, j'essayais de faire des liens avec notre propre dispositif et j'ai trouvé un grand nombre de similitudes finalement, ne serait-ce que dans la chronologie des événements. Je suis sans doute encore un tout petit peu dans cette histoire que j'évoquais ce matin, et cette chronologie, elle est assez similaire au bout du compte, avec on commence par un dispositif début du siècle qui monte en puissance sur la protection des éléments individuels, et puis ensuite on protège donc ces arrondissements historiques à partir de 1963, 9, si j'ai bien retenu. On se préoccupe aussi, et ça a été le même cheminement en France, alors peut-être pas tout à fait dans les mêmes ordres de date, mais en tout cas, c'est la même prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement des éléments protégés. Et puis dans les années 80, un peu comme en France, on conçoit cette décentralisation, cette responsabilisation des niveaux d'administration inférieurs ou communaux. Donc tout ça m'a semblé tout à fait proche du point de vue de l'évolution historique. Alors il y a peut-être un petit décalage dans cette, notamment la façon dont vous avez ce que vous avez évoqué à propos de 2012 et ce changement de vocable, cette émergence aussi des plans de gestion et de mise en valeur avec les questions de zones tampons. Et si j'ai bien compris, tout ça n'a pas été réservé à des éléments qui relèveraient du patrimoine mondial. En fait, on s'est inspiré, c'est ça, de cette législation et de cette façon d'envisager les aires ou les éléments historiques ou remarquables, pour leur appliquer des concepts venus du patrimoine mondial. Alors, c'est intéressant par là aussi le contraste avec notre propre système, parce que je crois que chez nous, notre réflexion sur l'articulation entre la législation sur le patrimoine mondial et la législation interne, elle est très récente, elle date de 2016, et notre réglementation n'a pas du tout précédemment été impactée. J'ai aussi été très impressionné par le nombre de niveaux de planification. Enfin, je croyais qu'en France, on avait la folie de la planification, avec nos DTA, enfin, qui ont un peu perdu de vitesse aujourd'hui, mais nos SCOT, nos schémas de cohérence, nos PLU, PLUI. Bon, mais j'ai l'impression, vous allez me le confirmer, que vous faites bien pire ou bien mieux, je ne sais pas, mais avec quatre niveaux, des PMAD, ensuite le schéma de l'agglomération de Montréal, un plan pour la ville, et puis ensuite un plan aussi à l'échelle de chaque arrondissement. Donc quatre niveaux, tout ça étant déconnecté, si j'ai bien compris, vous allez me le confirmer, déconnecté de la règle elle-même, de la formulation de la règle elle-même, ouais. Puisque tout ce qui est du niveau réglementaire, du niveau prescriptif,
est à l'agglomération.
Ne relève pas de ces plans, relève bien de des règles d'urbanisme de la ville de Montréal. C'est bien ça, il n'y a pas de dimension impérative, prescriptive. En fait, ces plans ne servent qu'à inspirer la conception de la règle.
Ces plans doivent régir, donc la rédaction du règlement d'urbanisme doit, est-ce que je suis toujours, oui, désolé, cette rédaction donc doit nécessairement faire percoler donc ces quatre degrés là de réflexion, trois là, parce que la ville, les arrondissements, mais non, il y a pas différents types de règlements, et même la loi, même un bien protégé au nom de la loi sur le patrimoine culturel, cette protection, il y a pas de plan de gestion nécessairement, il y a pas de réglementation, on dit si on fait telle chose, on doit demander permission, mais ce que vous expliquez ce matin, là, le plan de valorisation, de sauvegarde, valorisation, je ne sais pas l'ordre que vous évoquiez, mais même le gouvernement, avec sa loi sur le bien culturel ou sur le monument historique ou sur le patrimoine culturel, va dire, si je classe, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, il faut nous demander la permission. Mais on n'a pas de règlement très précis sur la manière de gérer ce bien classé. Il doit nécessairement percoler au niveau réglementaire municipal.
D'accord. Et cette absence de règlement, justement, est-ce que c'est perçu comme une faiblesse? Parce que c'est souvent un débat qui existe en France, notamment à propos des abords de protection des monuments historiques, qui sont les seuls dispositifs de protection, justement, qui ne sont pas dotés de règlements. Et c'est le dispositif de protection le plus contesté aussi, parce qu'on a, au bout du compte, un fonctionnaire, enfin en l'occurrence l'ABF, qui semble être un peu seul dans son royaume, en tout cas qui est perçu comme tel parfois par les élus et qui ne va pas fonder son appréciation sur une règle. Alors est-ce que ces protections sans règles, elles sont mises en cause? Est-ce qu'on va vers un peu plus de règles ou un peu moins, au contraire, compte tenu de la souplesse que ça donne?
Non, j'ai l'impression, mais d'autant plus que souvent... en plus, ce sont les professionnels. Nous, on n'a pas ce corps d'État, donc les ABF, ce sont les professionnels du ministère qui ont entre les mains l'étude des permis, même s'ils ont des formations, etc., là, bien sûr. Mais souvent, ces décisions, elles sont prises en comité mixte où les municipalités vont aussi avoir une relation, un dialogue, disons, avec ces gens du ministère qui vont au final prendre la décision. Et bien sûr, il y a plein d'exemples où on aimerait plus intervenir et que le fait que le ministère ait le dernier le droit de regard sur certains cause des problèmes, mais en général, non, pas tellement, en fait, bien honnêtement.
J'avais aussi un autre sujet de curiosité, mais enfin, évidemment, votre exposé était très riche et je pense qu'il va, il va susciter de nombreuses questions, notamment autour de ces consultations publiques, là, qui sont assez, là aussi, exotiques par rapport à notre système français. Mais j'avais une question un peu particulière, mais ça, c'est une petite obsession de juriste. Hein, j'en suis désolé pour tous ceux autour de cette table qui ne le sont pas, c'est-à-dire les plus nombreux, mais je vais être soutenu par mon collègue, j'espère, sur la souplesse que vous avez évoquée dans la délivrance des autorisations. Vous avez dit, mais il y a donc un dispositif, quand on demande un permis, on peut s'en écarter. Enfin, il y a des adaptations mineures, c'était l'expression qui était utilisée. Voilà, des formes de dérogation qui donnent lieu à cette discussion au travers de, ou avec, par l'intermédiaire du comité consultatif d'urbanisme. Ça fonctionne bien, cette affaire-là. la dérogation est toujours extrêmement délicate. Hein, ça peut être...
À partir du moment où on ouvre une porte, voilà, il y a jurisprudence, etc.
Voilà, mais donc comment ça fonctionne? Comment c'est vécu?
C'est mieux le oui ou le non.
Ça peut être une brèche dans laquelle tout le monde s'engouffre pour...
Ben, ensuite, oui et non, voilà, effectivement, donc, ça peut être la crainte, mais jusqu'à maintenant, ces CCU, lorsqu'ils sont bien gérés, en fait, malheureusement, la loi, la LAU, ne précise pas, si elle précise qu'il doit être créé par au moins un élu du conseil municipal doit siéger, elle n'oblige pas la présence de citoyens. Évidemment, la plupart vont le faire. Dans certains cas, le CCU est pris en charge par simplement les élus. On n'a rien contre les élus, bien sûr, mais ça peut créer un certain nombre de distorsions. Mais à partir du moment où, justement, un processus de consultation et de médiation, je dirais, dans ce comité, en fait, honnêtement, ça semble bien fonctionner parce que, justement, ça permet cette latitude qui, entre le oui ou le non, fonctionnait mal, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert une porte à ces dérogations mineures et à ce certain nombre de processus qui permet, en fait, de dévier du règlement d'urbanisme très précis en disant, OK, on a quelque chose d'assez précis, mais que faire lorsqu'on veut adapter ce règlement? Et c'est dans la volonté d'adapter au cas par cas Hein, évidemment, donc, on peut se dire, ben, il y aura toujours plus de cas par cas. Mais à partir du moment où il y a trop de cas par cas, c'est pour ça qu'on va reviser le plan d'urbanisme et reviser le règlement d'urbanisme en disant, ben là, on a ouvert quelque chose, est-ce qu'on doit refermer, etc. Donc, c'est dans les mécanismes de révision du plan d'urbanisme et donc du règlement d'urbanisme qu'on va laisser la porte ouverte ou refermer la porte et la rendre plus précise là, dans certains cas. Mais jusqu'à maintenant, cette présence et cette discussion, vous l'avez vu, c'est quelque chose de très présent, de très fort dans les mécanismes d'urbanisme au Québec. Bon, c'est pas partout comme ça. Dans les plus petites villes, c'est plus difficile, bien sûr, mais il y a vraiment une volonté d'impliquer le citoyen dans une réflexion sur l'aménagement, sur les décisions qui sont prises. En fait, hein, la loi sur le patrimoine culturel de 2012 a été adoptée à la suite d'une 3 ans de consultation publique où le ministère s'est promené à travers les différentes régions du Québec, a fait des auditions publiques, a reçu des mémoires, a produit un cahier de protection pour engendrer la discussion, etc., etc. Et au final, on a adopté cette fameuse loi sur le patrimoine culturel. Donc, on est vraiment dans ça ne veut pas dire qu'on a écouté tout le monde, puis qu'on a fait plaisir à tout le monde, bien sûr, mais on est vraiment dans une logique de d'audience publique, au point que récemment, bien sûr, l'OCPM a demandé des budgets supplémentaires à la Ville de Montréal en disant, vous voulez qu'on consulte, mais ça coûte cher aussi consulter, donc il faut nous aider à le faire. Et jusqu'à maintenant, on est dans une logique qui permet encore de le faire jusqu'à ce que ça explose, je ne sais pas, mais voilà. Pour l'instant, ça fonctionne, même si ça peut ralentir. Mais de plus en plus, même les promoteurs sont dans une logique où on sait que si on ne consulte pas en amont, toute l'idée de consultation et de rendre le projet proposé acceptable, le niveau d'acceptabilité patrimoniale ou sociale d'un projet, on le sait qu'il y aura protestation au final, donc on est mieux de s'inscrire dans un processus de consultation publique en amont. Et même au Conseil du patrimoine, normalement, le Conseil du patrimoine n'évalue que les demandes relatives à des biens classés ou cités. Mais de plus en plus, le Conseil du patrimoine va demander à d'autres de voir d'autres projets, de les étudier, de pouvoir passer des commentaires. Et la plupart des promoteurs qui reçoivent une demande d'auditionner devant le Conseil du patrimoine de Montréal acceptent de venir auditionner en disant, oui, c'est plus long, mais il faut peut-être le faire en amont parce que de toute façon, au niveau de l'acceptabilité sociale, il faut passer par là parce que sinon, il y aura peut-être problème à un moment donné. Donc, on est vraiment dans une logique là, de consultation et de réflexion. Ça veut dire que tout est parfait là, chez les Québécois, loin de là, mais on est dans cette logique-là.
Bon, j'imagine qu'il doit y avoir des questions, des observations, des éléments de discussion.
Donc, vous dites que c'est compliqué, mais moi-même, en vous écoutant ce matin, donc c'est toujours la même chose lorsqu'on est extérieur à un processus. C'est toujours, surtout dans cette volonté de gestion d'un territoire assis au niveau local, évidemment, voilà.
Non, moi, je trouve ça très rassurant. On n'est pas les seuls à avoir un millefeuille administratif, au contraire. Juste par curiosité, je voulais savoir s'il n'y avait pas trop de disparités entre ces 19 arrondissements. Comment vous essayez d'harmoniser, d'avoir une politique globale sur des arrondissements peut-être très disparates, je ne sais pas, je ne connais pas du tout.
Bien, en fait, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que le plan d'urbanisme est adopté à l'échelle de la ville. Donc, et ces arrondissements doivent, en fait, localiser hein, ces grandes fonctions du plan d'urbanisme. Il y a toujours, parce que à la ville de Montréal, il y a toujours les gens, ce qu'on appelle les gens au central, donc à la ville centre, à la division du patrimoine, qui est à l'aménagement urbain. Ces professionnels sont toujours là pour venir épauler les gens dans les arrondissements, donc les professionnels dans les arrondissements sur le terrain. Donc, dans ce contexte-là, cette localisation de la gestion permet justement de moduler les différentes réalités liées à ces 19 arrondissements, parce que, évidemment, les enjeux dans l'arrondissement Ville-Marie, donc la ville-centre avec le centre-ville d'affaires, les gratte-ciels, etc., ne sont pas les mêmes que ceux dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, où c'est un territoire avec une composante rurale, avec d'autres réalités. Donc, justement, ce jeu d'arrondissement, en fait, fonctionne relativement bien dans la gestion au quotidien, en fait, là, du patrimoine. Lorsqu'on vient le temps de parler du nombre des élus, etc., là, on peut avoir un débat très lourd, mais en termes de gestion au quotidien de l'arrondissement, évidemment, le citoyen ou le promoteur qui va à l'arrondissement, bien, il est devant de fonctionnaires qui connaissent très bien le terrain parce qu'il est à une échelle beaucoup plus restreinte là, que si on avait à gérer une ville sur l'ensemble du territoire. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est parfait.
Est-ce que la dernière loi, donc, de 2012 sur le patrimoine culturel, donc, qui intègre effectivement un certain nombre de notions qui viennent de l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel, paysage culturel, est-ce qu'elle a eu des incidences à l'échelle urbaine, métropolitaine ? À Montréal ou ailleurs?
Oui et non. Donc, elle date de 2012. Donc, toute l'idée des plans de gestion a évidemment percolé au niveau plus local. La notion là, qui semblait, surtout dans les consultations publiques, qui semblait être la notion sésame pour enfin protéger le patrimoine qui inclut les gens sur le territoire, etc., donc la notion de paysage culturel, donc dont on a parlé énormément dans les consultations publiques. Les groupes de citoyens disaient « oui, il faut intégrer cette notion, oui, enfin, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui nous ressemble ». Jusqu'à maintenant, donc en 2012, on est en 2018, 6 ans plus tard, il n'y a aucun paysage culturel qui a été créé au nom de la loi sur le patrimoine culturel. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Ça veut simplement dire peut-être que l'idée de créer des paysages culturels est un mécanisme de gestion et de protection assez complexe, qui n'est pas facile à mettre en place. Et surtout, et là, cette fois-là, on inverse le mécanisme, c'est-à-dire que le ministère des Affaires, ministère de la Culture et des Communications, maintenant qu'il s'appelle, le MCC, dit « on veut bien protéger des paysages culturels ». Mais là, il faut que ça vienne de la base, du local, parce qu'évidemment, pour protéger des paysages culturels, il faudra inévitablement que tout ça soit bien imbriqué dans les règlements, dans les plans d'urbanisme, dans les schémas régionaux, etc. Donc, nous, on ne met pas en place de démarche de création de paysages culturels. Si vous voulez des paysages culturels, il faut vous en occuper. À partir du moment où vous montez vers nous avec un plan qui se tient, qui correspond à ce qu'on veut, bien, on étudiera la possibilité, effectivement, oui ou non, de créer des paysages culturels. Mais pour l'instant, ça reste, on est encore dans une période, je dirais, d'expérimentation ou de réflexion autour de comment faire pour opérationnaliser ces paysages culturels ou non dans la mécanique de l'aménagement.
Et la notion de patrimoine culturel immatériel, elle résonne à cette échelle-là?
Ça fonctionne mieux parce que le gouvernement à Québec est très heureux parce que ça ne coûte pas cher créer du patrimoine immatériel. Les désignations n'impliquent pas de coûts d'aide, de subventions à la restauration, à la rénovation, etc., etc. Donc, je dirais qu'il se dédouane d'être si peu présent dans la protection du patrimoine bâti. Là, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais dans la protection du patrimoine bâti, en investissant beaucoup toute la question du patrimoine immatériel. Donc, il y a tout un processus de désignation en cours là, qui est en place. Et on a déjà, cette fois-là, six ans après l'adoption de la loi, on a déjà une série d'éléments qui sont inscrits et ont été désignés patrimoine immatériel. Et le premier élément inscrit, c'est un choix symbolique aussi fort, c'est le champ de gorge des Innus, une façon d'intégrer ces Premières Nations dont on retrouve très peu la place dans l'univers du patrimoine bâti et culturel au Québec, parce que pour toutes sortes de raisons.
Je vais prendre une dernière question de Fabrice pendant que je m'installe.
Oui.
Un peu
de retard. Désolé de.
Non, mais.
Oui.
Une dernière question. Je suis multitâche.
Merci. Deux questions rapides qui complète certaines posées précédemment sur la complexité administrative. Alors, elle est contrebalancée par les processus de consultation qui sont réels, qui n'existent pas autant en France et plus. Alors, en environnement, ça existe de manière obligatoire, ça a été dit, mais pour le patrimoine, c'est plus le lobbying des associations patrimoniales qui arrivent même à faire bouger la loi nationale. Et les projets locaux, dans certains cas. Mais on voit quand même que les processus administratifs très complexes ont tendance peut-être quand même à noyer un peu le poisson. C'est-à-dire que des fois, on ne sait plus qui est responsable de quoi, que ce soit en France ou particulièrement au Québec, dans le Grand Montréal, parce qu'il y a plein de superpositions, et pas seulement pour le patrimoine, des projets d'urbanisme aussi... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, d'autre part, alors, vous les avez mentionnés, les MRC, et en fait, elles ont un rôle très important, et on voit que dès 79, elles ont un rôle en termes de projet de territoire qui est venu un peu plus tard en France, dans les années 90, avec des compétences peut-être moins développées en termes de gestion qu'en France, mais quand même, et notamment une imbrication entre culture et nature. Qui se fait dans certaines MRC avec des schémas qui incluent les deux éléments. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des transferts, en fait, de ces schémas ou de ces plans territoriaux dans des protections un peu plus importantes?
Donc, oui, inévitablement, à partir du moment où on a un certain nombre de couches, de superpositions, de pouvoirs, qu'est-ce qui est au central, qu'est-ce qui est aux arrondissements, etc., qu'est-ce qui est à l'échelle de la communauté métropolitaine, bien, effectivement, ça crée de la complexité. Mais en même temps, on n'a pas le choix de créer de la complexité dans la mesure où on a des territoires complexes à gérer et à mettre en valeur et à protéger. Donc, inévitablement, je pense, on n'a pas le choix de vivre dans un monde complexe et de d'avoir un mécanisme de gestion et de mise en valeur qui répond à cette complexité-là.
Ce que je voulais dire, c'est que ça peut se retourner quand même contre la volonté de participation et de prise en compte des avis. C'est-à-dire que finalement, vu la complexité et des fois les problèmes d'identification de compétences, ça renvoie un peu à la responsabilité des élus ou des fonctionnaires qui décident un peu ce qu'ils veulent sous couvert de concertation.
Ben oui, ça pourrait effectivement, ou à l'inverse, de ne pas bouger en disant c'est pas moi, c'est lui, et l'autre qui dit c'est pas moi, c'est lui, donc on se renvoie la balle et ça bouge pas beaucoup. C'est sûr que c'est le danger de ce type là de responsabilité partagée. Des élus qui font semblant, ben c'est toujours possible, puis il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais en même temps, en parallèle de ça, il y a tout le mécanisme de supervision des différents comités dont j'évoquais la présence, qui quand même permet là, de contrôler plus ou moins, et la société civile qui est là, les associations de patrimoine qui ont toujours un œil, qui font du monitoring, etc., qui jouent un rôle important dans cette supervision là, de la complexité et des rôles de tous et chacun dans le processus de gestion et de mise en valeur. Donc, quant à la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais oui, effectivement, la question de nature et culture est intimement liée au Québec, puisque, je ne l'ai pas évoqué, mais la notion de patrimoine émerge d'abord à travers la protection des espaces naturels, les grands espaces du Québec, etc., et du Canada, d'Amérique du Nord. Donc, la présence de la nature et le travail énorme des groupes environnementaux pour protéger différents écosystèmes, etc., a joué un rôle important. D'ailleurs, le modèle de l'OCPM, donc l'Office de consultation publique de Montréal, découle du BAP, donc de l'organisme de gestion des projets environnementaux qui existe depuis les années 70. Tout le mécanisme d'audition publique, là, c'est le même qu'on employait dans l'évaluation des projets environnementaux qu'on a transposé pour évaluer et discuter d'autres dossiers. Donc, puis on l'a vu aussi dans le PEMAD de la communauté métropolitaine de Montréal, la présence à travers le concept de la trame bleue et verte, donc la présence de la nature et de la culture est quelque chose d'important et de fondamental. Je ne sais pas si je réponds à votre question.